Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet que j'ai commencé il y a 5 ou 6 semaines. Plusieurs d'entre vous ont dit qu'ils l'avaient vraiment apprécié, alors de temps en temps, je vais m'écarter de la forme de prédication normale que nous utilisons et que j'utilise aussi en donnant un sujet, mais pour expliquer l'une des épîtres de Paul. J'ai eu l'occasion d'enseigner les épîtres de Paul pendant 30 années à l'ambassadeur collège. Je l'ai introduit dans le programme d'études et j'ai constaté lors des tournées de baptême que cette partie de la Bible était celle sur laquelle les gens posaient le plus de questions. Comme le dit l'apôtre Pierre, Paul a écrit beaucoup de choses difficiles à comprendre, et les gens déforment cela et ne comprennent pas certaines parties des écrits des apôtres, les épîtres de Paul. Je vais donc aborder ce sujet. Prenez donc votre Bible, suivez-moi comme d'habitude. Allez-y et essayez de vous dire comment pourrais-je expliquer cela aux autres. Vous dites, j'ai déjà entendu cela. Eh bien, vous ne l'avez peut-être pas entendu de manière aussi approfondie. Alors, comment pourriez-vous l'expliquer à quelqu'un d'autre? Vous devez toujours être prêt à répondre aux autres de la foi qui est en vous. J'espère donc de pouvoir vous aider à comprendre cette épître. La dernière fois, j'ai parlé de Philippiens. Je vais parler de Colossiens aujourd'hui. Colossiens, parce qu'il y a des passages soi-disant difficiles. Nous allons donc éclaircir cela aujourd'hui dans ce sermon. Je disais à M. Davis l'autre jour que j'avais 32 semaines, soit 96 périodes de cours pour parcourir les épîtres de Paul au collège, parce que vous aviez 2 semestres de 16 semaines de cours chacun. Normalement, je couvrirais chaque chapitre en 45 minutes, mais maintenant nous verrons tout le livre dans un sermon de 75 minutes. Nous devons donc avancer un peu plus rapidement qu'en classe, et j'espère que vous le comprenez, mais je vais essayer d'être très clair et, je l'espère, très utile pour vous. Tout d'abord, faisons un peu d'histoire. L'Épître aux Colossiens fut écrite vers l'an 61 ou 62, disons 61 après Jésus-Christ, à partir de Rome. Vous pouvez consulter les commentaires sur ce point. Plusieurs hypothèses existent, mais presque tous les commentaires sensés s'entendent pour dire, selon le contenu de l'Épître, que l'Épître fut rédigé quand Paul était emprisonné à Rome, et il parle de l'époque où ces choses s'étaient passées, alors qu'il écrivait de Rome. Elle fut écrite en même temps qu'Éphésiens et que Philippiens. Elles traitent toutes des mêmes thèmes. Éphésiens, Philippiens et Colossiens ont toutes été écrites à la même période, depuis l'emprisonnement de Paul à Rome. La raison principale de la lettre, et je pense qu'il est bon que vous le sachiez, qu'est-ce qui a poussé Paul à écrire cette lettre à ce moment-là? Eh bien, il écrivait toujours des lettres aux églises qu'il avait fondées, mais il y a généralement une situation spécifique. Et la situation ici, et je pense que j'ai fait une erreur cette fois-ci en ne mettant pas mes marqueurs. J'ai juste mis de petits morceaux de papier au lieu d'un ou trois marqueurs en haut. Je devrais feuilleter un peu plus. Mais dans Colossiens 1 et le verset 7, il parle de la façon dont Épaphras, leur compagnon de service, déclare au verset 8 « De quel amour l'esprit vous anime ?» Paul n'a donc pas connu personnellement les Colossiens. On lui a parlé d'eux et aussi des problèmes qu'ils avaient. Et bien sûr, au chapitre 2 et au verset 8, Colossiens 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. » Ils étaient donc plongés dans un type de religion païenne. Certains d'entre eux se lançaient dans le gnosticisme, une certaine forme précoce de gnosticisme, comme l'expliquent certains commentaires, qui est un mélange de quelques idées juives, mais surtout d'idées païennes. Paul a donc dû leur écrire pour les aider à clarifier la situation. C'est la raison immédiate pour laquelle il écrivit cette lettre et commentait ces choses. J'aimerais cependant dire ceci en guise de toile de fond. Frères et sœurs, je pense que vous le savez tous, mais certains d'entre vous ne le savent pas et ne l'ont pas encore bien intégré. Je vous invite à l'étudier par vous-même, mais Paul était un rabbin dans le passé. Il était membre du Sanhédrin, et le livre des Actes indique clairement qu'il vota en tant que membre du Sanhédrin lors de la mise à mort d'Étienne. C'était donc un homme très qualifié, formé au pied de Gamaliel. Il était juif, et tout au long de sa vie, comme vous le savez tous, il a respecté le sabbat, les jours saints, etc. Il parlait certainement en tant que juif. Il ne parlait pas d'une idée de Dieu qui serait païenne ou qui relèverait de la philosophie. C'est de la folie. Et pourtant, certains des commentateurs protestants, des libéraux dérangés, essaient de lire cela ici. Nous le verrons. Mais Paul ne pensait pas ainsi. Ce n'était pas du tout son message. Nous verrons cela au fur et à mesure que nous avancerons. Mais Paul était quelqu'un qui honorait la loi de Dieu, qui honorait les 10 commandements. Et rappelez-vous, frères et sœurs, que Jésus-Christ lui-même, bien sûr, a respecté les commandements, donnant ainsi l'exemple. Commençons donc dans le livre des Colossiens. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les 2 premiers chapitres, mais je vais devoir passer un peu plus de temps sur la dernière partie du chapitre 2. Colossiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et bien sûr, le mot grec signifie un messager. Un messager ayant reçu l'autorité. C'était le rang le plus élevé dans le ministère que Dieu décrit dans Éphésiens 4. Le Christ a dit qu'il y avait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Dans cet ordre, le Christ place ces personnes dans l'Église, Éphésiens 4, verset 11. Donc ici, Colossiens 1, 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, il incluait Timothée dans ses salutations. Il ne s'est pas placé seul dans la hiérarchie, mais il était le seul à écrire. Verset 2. Aux saints et aux frères fidèles qui sont à Colosse. Il écrit donc aux Colossiens, et remarquez qu'il écrit aux saints. Lorsque vous lisez les écrits de Paul, vous constatez qu'il parle de tous les frères convertis qui sont des saints. L'Église catholique a tout ce tralala où elle essaie de choisir un saint. Ce n'est pas biblique. La Bible parle de chaque chrétien sincère comme étant saint et sanctifié. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux sont saints. Vous êtes tous des saints ici, si vous êtes convertis et si vous avez l'Esprit de Dieu. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Je commence cela, frères et sœurs, parce que c'est une salutation qui figure au début de presque toutes les lettres de l'apôtre Paul. Ce qui est significatif, c'est qu'il mentionne Dieu le Père et Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit est une personne, ce serait une insulte grossière et absolue au Saint-Esprit. Il ne mentionne jamais, jamais, jamais le Saint-Esprit dans ses salutations. Il parle de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Comment se fait-il que l'Esprit-Saint soit toujours laissé de côté? Parce que le Saint-Esprit n'est pas, je le répète, n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas l'un des êtres de la famille divine. C'est la nature même et le caractère de Dieu, une chose merveilleuse et magnifique. Mais lorsqu'il parle des personnalités de la famille divine, il ne mentionne jamais, au grand jamais, le Saint-Esprit. Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Paul était donc un homme de prière. Je pense que vous savez tous à quel point la prière est importante. Nous marchons avec Dieu, et l'une des façons de marcher avec Dieu est de lire et d'étudier, de se nourrir littéralement de Christ et d'avoir sa pensée en nous. L'autre façon importante de le faire est de prier, en levant des mains purifiées, comme le dit Paul, sans colère et sans douter. Chaque jour, nous levons les mains vers Dieu. Si vous pouvez entrer dans une pièce et prier en privé en levant les mains, ou essayer de prier près d'une fenêtre, ce que je préfère, si je le peux, pour regarder le ciel, Dieu est là-haut, dans le ciel. Si vous vous penchez tout le temps, vous n'avez pas nécessairement tort. Mais parfois, lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez vous pencher. Mais priez Dieu, réalisez que c'est votre Père qui est dans les cieux. Quoi qu'il en soit, il a constamment prié pour ces personnes. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, cela montre qu'il ne les connaissait pas personnellement. J'ai été informé. Et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. L'espérance est dans le ciel. Beaucoup de protestants disent « Voilà, voilà, nous allons tous au ciel, alléluia ». Non, ce n'est pas ce qui est dit. L'espérance est déposée pour vous au ciel. Et comme il est dit dans Philippiens 3, verset 20, ben « Nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons. » Il ne dit pas que nous allons au ciel, mais d'où nous attendons aussi, comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il vient donc du ciel. Et si vous regardez en arrière dans 2 Corinthiens, si vous voulez revenir à 2 Corinthiens chapitre 5, il explique aussi cet aspect des choses. Il dit au verset 1, 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente, qui est aussi traduite par tabernacle, où nous habitons sur la terre, est détruite, Notre corps se décompose lorsque nous mourons, mais nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous avons un corps que Dieu nous prépare dans les cieux, un corps spirituel. Alors c'est reparti. Nous allons au ciel. Non. Continuons à lire. Continuons à lire. Laissons la Bible interpréter la Bible. C'est la façon de comprendre les épîtres de Paul et toute la Bible. Laissez la Bible interpréter la Bible. Verset 2. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, non pas dans, mais du ciel. Verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. De toute façon, c'est le corps céleste du ciel, pas dans le ciel. Vous devez donc laisser toutes ces écritures être rassemblées pour comprendre cela, ainsi que le verset 13 de Jean 3, où Jésus dit, Jean 3:13, « Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il est donc important de connaître ces références afin de comprendre et de couper l'herbe sous les pieds de ceux qui essaient de déformer ces écritures en n'en lisant qu'une partie, sans vraiment les comprendre. Votre espoir est donc placé au ciel. Dieu prépare notre récompense là-haut, mais le Christ va la ramener ici, notre corps spirituel. Nous recevrons alors du ciel un corps spirituel que vous avez déjà entendu dans la parole de la vérité des Évangiles. Frères et sœurs, dans cette Église, il se trouve que nous avons la vérité. Je ne l'ai pas inventée. M. Ames ne l'a pas inventée. Aucun d'entre nous n'y a pensé. Et même M. Armstrong n'y pensait pas. Dieu l'a donnée par sa parole, et M. Armstrong fut ordonné par une branche de l'Église de Dieu dans l'Oregon, et l'Église de Dieu, qui descendait directement des apôtres, avait beaucoup de vérités fondamentales. Il comprenait que le royaume devait être ici sur terre, il savait qu'il n'était pas au ciel, il connaissait le sabbat, les lois sur les viandes pures et impures et bien d'autres choses. Il ne comprenait pas les jours saints, ils en parlaient mais ne les comprenaient pas. Mais il leur fut donné que le pilier, l'Église est le pilier de Dieu, le pilier de la vérité, le pilier, le rempart de la vérité. M. Armstrong a appris d'eux les bases, puis par l'Esprit de Dieu, il les a complétées et développées. Et c'est de lui que nous tenons la plupart de ses enseignements, et nous lui en sommes reconnaissants. La vérité est précieuse. Vous pouvez sortir, comme vous le savez, n'importe où dans cette ville. Et personne en dehors de cette salle ne la comprend. Et ils ne comprennent pas. Dieu ne les appelle pas. Nous ne sommes pas plus intelligents. Il ne les appelle pas encore. Il les appellera plus tard. Quand ils lisent ceci, c'est juste du blablabla. Tout cela est du grec pour eux. Ils ne comprennent pas. Quoi qu'il en soit, comprenons cela et apprécions l'appel et la vérité. Colossiens 1, verset 5. Et que la parole de vérité et la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Conformément à la grâce de Dieu, sa grande miséricorde, de nous appeler hors du monde pour être membres de sa famille. Verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, votre bien-aimé compagnon de service, ce jeune homme est venu pour aider Paul. Il était pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Épaphras a rapporté ce qui se passait à Colosse, sans doute à propos de l'hérésie qui y régnait, et tout de suite après, Paul écrit cette lettre. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Il priait continuellement. Il priait pour les églises avec lesquelles il travaillait directement. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons avoir plus qu'une simple sagesse humaine. Nous devons avoir une compréhension spirituelle pour penser comme Dieu, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous reliez les points? Est-ce que vous faites les liens? Je pense que la plupart d'entre vous le font. Mais quand vous lisez sur les mariages homosexuels, ils augmentent. Quand vous lisez la proclamation de Jerry Brown mettant tous les enfants ensemble dans la même douche ou autre, quand vous lisez que toutes ces choses qui ont commencé à se produire, le déclin moral de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, et puis vous lisez sur le Moyen-Orient, ils sont en guerre, L'Égypte se désagrège plus qu'elle ne l'a jamais fait dans les temps modernes. Et beaucoup de tout cela est sans aucun doute en train de préparer le terrain pour le roi du Sud. Et lorsque vous réalisez tous les autres problèmes dans le monde, lorsque vous réalisez que l'économie américaine est en difficulté, que d'autres nations vont prendre le relais et que nous connaissons une terrible sécheresse dans l'Ouest, vous rendez-vous compte que le Wall Street Journal a publié un article complet sur le lac Mead, qui fournit la majeure partie de l'eau nécessaire à Phoenix, en Arizona, à Las Vegas, au Nevada et San Diego, et à beaucoup d'autres grandes villes du Sud-Ouest qui sont alimentées par ce réservoir. Celui-ci est presque à son niveau le plus bas de l'histoire. Et d'ici 2 ans, ils vont devoir rationner sévèrement l'eau dans ces régions s'ils ne reçoivent pas beaucoup plus de pluie. L'écriture est sur le mur. Il faut relier les points. Nous nous détournons de Dieu. Nous crachons au visage de Dieu. Dieu coupe l'eau. Nous lui crachons au visage, les ouragans se multiplient. Nous commençons à avoir de plus en plus d'épidémies. Nous commençons à avoir de plus en plus de tremblements de terre. Les êtres humains charnels disent « Oh, c'est le réchauffement de la planète. C'est de la foutaise. C'est le Dieu Tout-Puissant qui le prédisait en détail il y a 2000 ans. » Ce n'est pas un truc moderne qu'Al Gore a inventé, c'est ridicule. C'est Dieu qui est responsable de ces choses, il faut donc apprendre à relier les points. Nous avons donc besoin d'avoir une compréhension spirituelle, Colossiens 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, se servir et s'aider les uns les autres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous devons donc être fortifiés par le Saint-Esprit de Dieu. En sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Nous ne sommes pas qualifiés ou capables par nous-mêmes, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais par le sacrifice de Christ qui nous réconcilie avec Dieu, et par le Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit, Dieu lui-même nous qualifie. Il nous donne la force de l'honorer et d'être dignes de la vie éternelle dans son royaume. Le verset 12, Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière représente toujours la justice de Dieu. Verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons tous été engloutis dans ces ténèbres, j'ai grandi dans ces ténèbres, je ne comprenais pas Dieu. Moi et tous mes amis buvions, jurions, et nous battions, trichions et faisions quelque chose de mal. Nous n'étions pas pires que les autres. Beaucoup d'entre nous faisaient partie de la National Honor Society, mais nous étions que des jeunes gens normaux, américains, charnels. Nous ne connaissions pas Dieu. Les jeunes hommes de mon âge, ou de l'âge que j'avais à l'époque, sont bien pires aujourd'hui parce que le monde entier est bien pire. Ils ne sont pas intrinsèquement pires. Ils ont tout simplement grandi dans un monde pollué par la puissance des ténèbres. Verset 12. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes déjà des membres engendrés. Nous ne sommes pas des membres à part entière, nous sommes des fils engendrés de Dieu. Vous comprenez? Et nous sommes engendrés, pas encore membres à part entière, mais membres engendrés du royaume ou de la famille de Dieu, dès maintenant, si nous avons l'Esprit de Dieu. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang. Le péché n'est pardonné que par ce sang. Comme nous le dit le livre des Hébreux à plusieurs reprises, Dieu leur a donné d'offrir des sacrifices sanglants dans l'Ancien Testament, en signe de cela, un symbole de ce que le Nouveau Testament met en évidence. Cela doit se faire par le sang de Jésus-Christ, et nous devrions apprécier grandement ce qu'il a fait pour nous. Verset 14. Pour la rémission des péchés. Le Fils, Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né d'une multitude de frères, comme mentionné dans Romains 8, verset 29. Christ est le premier-né de beaucoup de frères. De nombreux frères vont naître de Dieu et nous, bien sûr, nous devons naître de Dieu. Le Christ est le premier-né de beaucoup de frères. Il est l'image même de Dieu, totalement semblable à Dieu. Mais si vous vous reportez dans le livre des Hébreux, il parle de Jésus-Christ, Hébreux 1, versets 2 et 3. Versets 2 et 3, il parle de Jésus-Christ. Il dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et le grec dit l'empreinte comme le sceau de Rome ou l'image de l'empereur, l'image du gouverneur qui était frappé sur les pièces de monnaie. Tout comme notre monnaie, nous avons l'empreinte de George Washington ou d'un autre grand dirigeant. Le Christ est l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Christ est la représentation parfaite de Dieu le Père. Nous l'avons vu en parcourant le livre de Jean. Si Dieu le Père était venu ici en personne, il n'aurait rien fait de différent de ce qu'a fait le Christ. S'il avait eu une mère humaine différente, il aurait peut-être été plus grand ou plus petit, il aurait pu avoir des mains plus grandes ou des pieds plus petits, ou quelque chose comme ça, mais son approche fondamentale, son caractère, tout en lui serait le même. L'empreinte de sa personne, ce même caractère, lui et le Père ne font qu'un. Le Christ représente pleinement Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est vraiment encourageant lorsque vous pensez à cela. Lorsque vous lisez l'histoire de ce jeune homme allant ici et là par les collines et par les vallées de la Galilée et guérissant les malades. Je le veux bien, sois guéri. Je suis là, je veux t'aider, te servir, te donner ma vie pour toi. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu en ce moment. Il était ici, il fut tenté en tout point comme nous le sommes. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Il est notre souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Il est l'empreinte exacte de Dieu le Père, et pourtant il est là-haut dans les cieux en train de prier pour nous. C'est merveilleux de s'en rendre compte. C'est ce que nous apprenons ici, et nous prions pour que vous soyez fortifiés par sa puissance glorieuse. Revenons à Colossiens 1 et le verset 15 maintenant. Il nous montre que, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16 maintenant. Car en lui ont été créées toutes les choses. Vous le savez tous, j'en suis sûr. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 3. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a tout fait. Il a créé les cieux, la terre, il nous a créés hommes et femmes, il a créé les beaux arbres, les fleurs, les oiseaux, le vent magnifique qui passe à travers les arbres, les magnifiques levées et couchers de soleil, la musique. Il a créé toutes les bonnes choses et belles choses par l'intermédiaire du Christ. Le Christ est l'instrument qui a fait tout cela. Nous pouvons donc en être très reconnaissants. Colossiens 1, verset 16 maintenant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout, et toute chose subsiste en lui. Il était donc avec Dieu le Père dès le commencement, et il est la tête. Le Christ est la tête. Et le verset ne dit pas qu'il était la tête, mais qu'il est. C'est un présent actif. Il est maintenant la tête de son Église, la tête vivante de l'Église. Il est la tête du corps. Il parle de l'Église comme étant le corps de Christ. Comprenez bien. Nous y reviendrons plus tard. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier d'une multitude de frères, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Encore une fois, il nous réconcilie à Dieu. Il fait la paix entre nous et Dieu. Nous nous sommes coupés de Dieu, et le Christ nous y ramène par son sang versé sur sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et qui êtes redevenus frères, à qui s'adresse-t-il ici? Les Colossiens étaient des païens. Ils ne parlent pas d'une synagogue dans le livre des Actes, et tout indique qu'ils étaient en grande majorité païens. Donc, il parle des gens qui ne connaissaient pas la loi de Dieu. Ils ne connaissaient pas le sabbat avant leur conversion. Ils ne connaissaient pas les jours saints. Ils ne connaissaient pas les viandes pures et impures. Ils ont appris cela après être entrés dans l'Église. Nous y reviendrons plus tard. Il dit donc, verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Il y a ce mot de deux lettres le plus important dans la langue française, si. Ici, verset 23, « Du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Les gens demandent souvent, « Que voulez-vous dire? Comment l'Évangile a-t-il été prêché à toute créature sous le ciel? » Eh bien, il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament et ailleurs qui l'indiquent. Mais l'un des plus clairs, je ne vais pas faire tout un sermon là-dessus, mais c'est le psaume 19. Psaume 19. Et c'est là que vous commencez à voir de quoi il s'agit. Psaume 19, verset 2. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'Évangile est la bonne nouvelle concernant le grand Dieu, le vrai Dieu, le Créateur, qu'il a un but, qu'il a un dessein et qu'il a la puissance. Les cieux le proclament. Il montre qu'il y a un grand esprit derrière tout ce vaste univers. Verset 2. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Verset 3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Vous pourriez dire le message qu'il y a un grand Dieu qui a du pouvoir, qui a une organisation qui élabore un plan dont le son ne soit point entendu. Verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents, leurs messages vont aux extrémités du monde. Ce message fondamental sur le Créateur a donc été donné à l'homme par Dieu, et Dieu qualifie l'homme d'insensé, même dans l'Ancien Testament, s'il ne connaît pas Dieu. Il devrait voir ces choses dans la création et se rendre compte de cette magnifique création. Ces lois et systèmes qui s'imbriquent et se chevauchent dans toute la nature exigent un être organisé. Ils exigent un grand esprit. Cette création exige un créateur. Tel est le message. Ils avaient donc entendu cette prédication un peu partout de cette manière. Colossiens 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Nous y revoilà. Le corps du Christ est quoi? C'est l'Église. Ton corps est l'Église, frères et sœurs. Lorsque le Christ était sur la terre, il y a presque 2000 ans, il avait deux mains, deux pieds, une bouche, etc. Alors il marchait sur les collines de Galilée et il priait avec sa bouche. Aujourd'hui, nous devenons ses serviteurs. Nous sommes ses mains et ses pieds. Nous sommes sa bouche. Et M. Ames et moi-même, ainsi que le Dr. Wanel, M. Weston et tous nos dirigeants, transmettent le message dans le monde entier. Et nous sommes utilisés par Dieu comme une partie de sa bouche, pour ainsi dire, pour diffuser son message. Nous devenons son corps. L'Église entière est son corps pour accomplir son œuvre. C'est ce qu'il dit ici, encore une fois. Et dans le verset 25, il continue, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge, dans un acte de service. » Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché. Le mystère, il en parle souvent. Il y reviendra. Mais je vais l'expliquer tout de suite. Il n'explique pas le mystère partout où il l'évoque. Mais j'ai fait toute une étude et j'ai donné un sermon entier sur ce sujet. Et je ne sais pas, peut-être dans Worldwide, je pense que j'ai écrit un article entier sur ce sujet. Qu'est-ce que le mystère de Dieu? À un endroit, il l'appelle la résurrection. Mais franchement, ce n'est qu'une partie du mystère. Quand on pense à la résurrection et à tout ce qu'elle implique, le mystère de Dieu est le fait que Dieu se reproduit et que nous sommes faits pour être pleinement comme Dieu un jour, que nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu. Et le monde s'est toujours interrogé. Je sais que ma grand-mère méthodiste avait l'habitude d'écouter cette vieille chanson sur son antique tourne-disque de marque Victrola. J'allais chez elle et elle me lisait des passages de la Bible, ce qui m'aidait beaucoup, franchement. C'était bon pour moi. Et elle jouait ce vieux Victrola et quelques chansons de ce temps-là. Ah, doux mystère de la vie, je t'ai enfin trouvé. Les philosophes, les penseurs et les dirigeants se sont toujours demandé pourquoi sommes-nous ici? Quel est le mystère de la vie? De quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu permet-il aux hommes de souffrir? Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi ne continuons-nous pas à vivre? Voilà le mystère. Dieu nous a mis ici pour nous tester, pour nous éprouver, pour travailler avec nous, pour nous façonner, pour nous modeler, pour nous rendre à la fin conformes à son caractère. Le mystère de Dieu, c'est que nous sommes placés ici et que nous passons par ce creuset d'épreuves, de tests, de haut et de bas pour apprendre le caractère, pour finalement être dignes, ou du moins le Christ en nous est digne, et il nous rend dignes d'une manière générale d'être aptes à vivre pour toujours dans la famille même de Dieu. Et Dieu se reproduit lui-même. C'est une compréhension merveilleuse. C'est seulement l'Église de Dieu qui descend de M. Armstrong qui comprend cela. Certains d'entre nous, les nouveaux membres de l'Église, entendront parler des Mormons et diront « Les Mormons croient cela ». Non, ce n'est pas le cas. Ils ont une approche totalement différente, totalement différente. J'ai étudié cela en détail il y a des années. Ils pensent qu'ils étaient déjà là quelque part. Ils ont inventé des noms comme Kolob, K-O-L-O-B, une planète. Ils pensent qu'ils sont venus de Kolob ou de quelque part, qu'ils ont en quelque sorte transmigré dans cette chair humaine et qu'ils retourneront ensuite dans l'espace. Ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Ils pensent que plus vous avez d'enfants ici, plus vous aurez de gens dans votre royaume à Kolob ou dans une idée de l'éternité qu'ils ont inventée. Ils ne disent pas que le Christ doit vivre sa vie en vous et que vous devez croître dans la grâce et la connaissance et développer le plein caractère de Christ grâce à l'Esprit de Dieu en vous. Ils ne comprennent pas du tout cela. Leur approche pour devenir Dieu est totalement différente de la nôtre, totalement différente. Je peux vous dire que j'ai travaillé étroitement avec M. Armstrong de très près, plus que tous ces autres individus réunis qui prétendent qu'ils le connaissent si bien. Je ne veux pas citer les noms, mais moi, je l'ai connu. Devant Dieu, je sais que j'ai été proche de M. Armstrong. Cela n'a fait aucun doute. Eux n'en étaient même pas proches. M. Armstrong n'a pas eu cette idée des Mormons ou de qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas le cas. C'est sorti tout droit de la Bible. La compréhension de ce mystère a commencé à le frapper. Et j'étais présent aux réunions lorsqu'il a commencé à en parler, alors qu'il étudiait la Bible. Verset 26, « Le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Vous trouverez des expressions de ce genre dans tout le Nouveau Testament. L'espérance de la gloire. Que voulez-vous dire par la gloire? Wow! Nous allons devenir Dieu, et notre visage va briller comme le soleil. Nous ne pouvons pas imaginer le genre de gloire que nous aurons, alors que nous sommes destinés à être des membres à part entière de la famille de Dieu. Quand vous lisez ce passage, que j'ai si souvent cité dans Jean 17, la prière finale du Christ, Jean 17, versets 21, 22 et 23, il dit qu'il va leur faire partager cette gloire. La gloire que Dieu m'a donnée, je vous l'ai donnée. Souvenez-vous de cela. La gloire que Dieu m'a donnée, je vous donne cette même gloire. Le Christ est maintenant assis à la droite de Dieu. Et le premier chapitre de l'Apocalypse nous montre que le visage du Christ brille comme le soleil. C'est à cela que nous ressemblerons, votre visage et le mien, plus tard, si nous parvenons à entrer dans le royaume de Dieu, si nous pouvons réaliser l'appel que Dieu nous a donné. C'est une chose extraordinaire. Depuis des milliers d'années, les gens se posent des questions, aspirent à cela, prient pour cela, ont de grandes discussions philosophiques à ne plus finir. Aujourd'hui, nous savons que Dieu se reproduit lui-même. Il l'a révélé à ses saints. Le verset 27. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous. S'il vit pleinement en vous, alors vous devenez pleinement comme le Christ. Vous devenez un fils à part entière. Tout comme le Christ est un fils de Dieu à part entière. Verset 27. Les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Nous prêchons Christ. Nous ne prêchons pas seulement au sujet du royaume, il n'y a rien de mal à prêcher au sujet du Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenant parfait en Christ. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. C'est le Christ qui vit sa vie en nous. Encore mon verset préféré, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Christ vit en vous et en moi par la puissance de son esprit. C'est ainsi que nous pouvons vaincre le péché. C'est ainsi que nous pouvons grandir dans la grâce et la connaissance. C'est lui qui le fait, lui qui le fait en nous. Colossiens 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Laodicée était proche de Colosse, dans la région de l'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie. C'étaient des églises sœurs et Paul avait une grande inquiétude pour elles. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair et en os. Encore une fois, ils n'ont pas vu Paul en personne. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Même s'ils ne l'avaient pas vu, il priait pour eux. Il leur écrit. Il voulait les aider. il a imploré Dieu pour eux, afin qu'ils réussissent, et verset 2, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère concerne Dieu le Père et le Christ. Savez-vous ce qui manque? Encore une fois, le Saint-Esprit. Quelle insulte colossale contre le Saint-Esprit! Si le Saint-Esprit disait « Hé, Paul, tu m'oublies tout le temps! » Eh bien, il ne le laisserait pas de côté si c'était une personne. Mais ce n'est pas une personne, c'est seulement une preuve indirecte, bien sûr, mais une des nombreuses preuves que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Verset 4. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Verset 5. « Car si je suis absent de corps, je ne suis pas avec vous présentement, je suis avec vous en esprit. » Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, marchez en Christ. Ayez Christ vivre sa vie en vous. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Il y avait quelques ministres apparemment fidèles qui abondaient dans ce sens avec des actions de grâce. Verset 8. Prenez garde. Écoutez bien ici, frères et sœurs. C'est la partie la plus difficile aux yeux du monde. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Il utilise le mot grec normal, philosophia, philosophia de la langue grecque, et par de vaines tromperies. Selon quoi? Selon les lois de Moïse que Dieu lui-même donna par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï? Non! S'appuyant sur la tradition des hommes, pas sur ce que Dieu donna. Paul n'oserait pas se moquer de la loi de Dieu, ni des lois humaines, ni de la loi civile de Moïse. Il n'a jamais fait cela. Ce sont les traditions des hommes, verset 8, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Que pensait le Christ? Eh bien, le Christ a dit dans Jean 15, notez-le, Jean 15, verset 10, Jean 15, verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. Il ne s'est pas moqué d'eux. Il les a suivis. » Il les a obéis, nous donnant l'exemple. Paul poursuit au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, la pleine nature de Dieu exprimée en Christ. » Verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, car il vit en vous, bien sûr, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Il n'était pas circoncis physiquement, c'était des païens. » Ils ne faisaient pas circoncire leur enfant mâle, mais de la circoncision spirituelle de Christ, qui consiste dans le dépouillement charnel de notre cœur, qui est changé. La partie charnelle de notre cœur est coupée et enterrée avec lui dans les eaux du baptême. Notez Romains 6, Romains 6, versets 1 à 6. Nous sommes enterrés au baptême et ressortons comme Christ fut ressuscité d'entre les morts. Nous devons sortir de l'eau en tant qu'homme nouveau, en tant qu'une nouvelle création. Colossiens 2, verset 12 maintenant. Ayant été enseveli avec lui, notre ancien moi meurt avec le Christ par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, verset 13, et vous, les païens, étant morts, vous ne connaissiez même pas Dieu, vous étiez sans Dieu, sans espérance, comme il est dit dans Éphésiens, coupés de Dieu, ne connaissant pas le vrai Dieu. Verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il ne s'agit donc pas d'un problème juif, il s'agit de personnes qui n'ont jamais connu Dieu ou la loi de Dieu, le Dieu de la Bible. Verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voici le verset que les protestants aiment vraiment. Oh, ils aiment ce verset. Ils veulent dire que ce verset signifie que les 10 commandements ont été cloués à la croix. Relisez-le. Il ne dit pas cela du tout. Et bien sûr, lorsque vous comprenez les expressions grecques ici, il ne formule pas du tout cette idée. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances, même dans la marge de ma Bible, imprimée ici par les éditeurs, pas par moi, pour l'acte, il est dit littéralement en hébreu « certificat de dette ». C'est de quoi il s'agit ici, d'un certificat de dette ou d'une reconnaissance de dette ou d'une note d'endettement, en écrivant le certificat de dette qui était contre nous. L'enregistrement de nos péchés. Quand un homme était crucifié, ils écrivaient normalement que c'était un meurtrier. Ils écrivaient, comme ce fut le cas de Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais s'il s'agissait d'un meurtre horrible, Ils écrivaient « Voici John Jones, le terrible violeur » ou « John Smith, le terrible meurtrier » ou autre chose. Excusez-moi de tous ceux qui sont des Smith ou Jones. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils écrivaient l'accusation et la clouaient au-dessus de la croix. C'était l'accusation qui était affichée. Le Christ a donc effacé la trace de nos péchés, ce qui est la véritable raison pour laquelle le Christ a été cloué sur la croix, ce qui était contre nous. Pourquoi? Eh bien, cela nous mettait sous le coup de la peine de mort. C'est pourquoi il a effacé la note de culpabilité. On peut le traduire ainsi. Ce matin, j'ai repris les commentaires. Il y a plusieurs variantes de cette traduction. Le registre de nos péchés, la note de culpabilité, le certificat de dette. Toutes ces différentes traductions sont correctes. Ce qui nous accusait. Bien sûr, cette note de culpabilité signifiait qu'elle nous incriminait. Pourquoi? Eh bien, elle nous fait tomber sous le coup de la peine de mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Vous feriez mieux de croire que c'était contraire à nous, parce que cela nous amène sous la peine de mort. Qu'a donc fait le Christ? Il a payé notre peine de mort. Et quelle est l'accusation qu'ils ont mise sur lui? Jésus-Christ le meurtrier? Non. Vous souvenez-vous pourquoi les Juifs étaient furieux? Ils espéraient que quelque chose de mauvais y serait inscrit. Au lieu de cela, Pilate a écrit ce qu'il ne voulait pas. Il a écrit « Jésus-Christ, le roi des Juifs ». Et pour eux, le roi à venir signifiait aussi le Messie. Ça les a mis en colère. C'était la pire des choses. Ils ont dit « horreur ». Ils se sont objectés. Et c'est écrit, lisez-le. Et il a dit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à vous, les Juifs, taisez-vous ». Il s'est occupé de cette situation. C'était un homme charnel, mais Dieu l'a utilisé pour dire qui le Christ était vraiment. Oui, il était le Messie à venir. Il était le roi des Juifs. C'était l'accusation inscrite sur sa croix, et non Jésus-Christ le meurtrier. C'était donc cette accusation qu'ils ont inscrite sur la croix. Mais normalement, il a pris le registre de nos péchés et l'a cloué sur sa croix. Il a pris le registre de nos péchés, a payé la pénalité et l'a cloué sur sa croix. Il est mort à notre place. Maintenant, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les démons, toute l'armée de Satan qui nous fait tomber, qui nous met sous le pouvoir de Satan en nous trompant, en mettant de mauvaises attitudes dans nos esprits, en faisant en sorte que le monde entier se détourne de Dieu. Par le Christ, nous surmontons cela et nous les désarmons. Verset 15, il les a livrés publiquement en spectacle parce qu'ils pensaient enfin avoir gagné. Ils ont finalement fait mourir le propre Fils de Dieu et personne d'autre ne pouvait nous réconcilier avec Dieu. Dieu l'a ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il était vivant 3 jours et 3 nuits plus tard. Verset 15. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Verset 16. Que personne ne vous juge. Il ne dit pas aux Juifs. Avec qui fait-il affaire ici? Une bande de païens? Avec des philosophies d'hommes? Mais lorsqu'ils se sont convertis, qu'ont-ils fait en sortant des religions païennes qui les entouraient? Ils ont commencé à observer quoi? Le sabbat hebdomadaire. Que faisaient les païens? Ils célébraient le jour du soleil. Ils gardaient tous ces jours païens, d'Isis et d'Osiris, et tous les jours que nous appelons aujourd'hui les Pâques et Noël, et d'autres choses comme ça. Ils devaient sortir de cela, et ils étaient jugés par les païens pour avoir gardé les fêtes de Dieu. Il dit donc, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, comme on le traduit habituellement, ou au sujet d'une fête, et ici on utilise normalement ces mots pour les jours saints de Dieu, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Qu'aucun homme ne vous juge parce que vous célébrez le sabbat au lieu du jour du soleil. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Comment cela se fait-il? Nous savons que les jours saints représentent le plan de Dieu. L'image du sabbat hebdomadaire représente le 7e millan et le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. En anglais, c'est « la substance est en Christ ». La traduction anglaise est très mauvaise ici. Ne laissez personne vous juger, etc., mais comme c'est imprimé dans ma Bible, si vous voulez le regarder plus tard, ce n'est pas moi qui l'ai mis là, le mot grec pour substance est soma, et il signifie littéralement corps, ce que nous avons en français. Et ici, dans ce même livre, de ce même homme, comme nous l'avons déjà vu, il montre comment l'Église est le corps du Christ. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24, pour son corps qui est l'Église. Et dans Colossiens 1, verset 18, le Christ est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps. Ne laissez aucun homme vous juger sur le type de nourriture que vous mangez et sur la façon dont vous célébrez la fête des tabernacles ou les jours saints, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, l'Église de Dieu. Le corps du Christ est censé vous enseigner à observer ces choses, et l'Église doit prendre les décisions quant à la façon dont elles sont observées. Nous ne devrions pas voir tous les Tom, Dick et Harry venir argumenter. Ce qu'ils font occasionnellement, chaque génération ou à tous les 5 ou 10 ans ou plus, pour disputer sur la façon de compter la Pentecôte ou la Pâque et sur la façon de les célébrer. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, deux frères de l'Ohio, dont je me souviens des noms, mais je ne vais pas les mentionner, nous ont quittés parce qu'ils disaient que nous devrions célébrer la fête des tabernacles avec des branches de palmiers. Ils disaient que nous devrions célébrer la fête des tabernacles avec des branches de palmiers, qu'il fallait aller chercher des branches de palmiers. Eh bien, nous n'avons pas de branches de palmiers partout. Le principe de l'Ancien Testament était de se séparer du monde et d'adorer Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire toutes les petites choses physiques. Il ne s'agit pas d'imiter Jésus dans son apparence extérieure, mais de suivre son exemple et ses enseignements. Si c'est le cas, nous ferions mieux de porter des robes et des sandales. Nous ne devrions pas porter nos chaussures, nos chaussettes et tous ces vêtements lourds ici, et ainsi de suite. Vous voyez, nous devons suivre les principes de ce qui est dit, et l'Église doit nous guider sur la manière de le faire. Ne laissez aucun homme vous dire comment observer les jours saints. Mais Dieu a un gouvernement dans l'Église. Nous devons apprendre à respecter ce gouvernement et à respecter le règne du Christ sur l'Église. Mais le corps, soma, est le corps du Christ. Et c'est la traduction correcte. Cherchez-le. C'est le même mot qu'il utilise au chapitre 1, verset 18. Le même mot que le même apôtre utilise, c'est-à-dire l'Église. L'Église est le corps. Colossiens 2, 18. Que personne, sous une apparence d'humilité, en ayant toutes sortes de comportements ascétiques, en abandonnant les bons plaisirs et les bons jeux, et par un culte des anges, ne laissez personne vous amener à adorer des anges ou des démons, à participer à des séances de spiritisme ou à des activités occultes, comme c'était le cas à l'époque. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ne laissez personne vous dépouiller de votre récompense, dit Paul. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Comme le dit les commentaires, il s'engageait dans une sorte de religion prognostique, et la plupart des experts ne savent pas exactement ce que c'était. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils lisent ici, et certaines des choses qui se faisaient dans le monde à cette époque. Nous savons donc que les païens s'adonnaient à diverses activités. Ils adoraient les esprits, ils adoraient des anges, et Paul dit « Ne faites pas cela ». Ne faites pas cela. Une autre chose, bien sûr, dans les premières religions païennes, ils sont allés à un extrême, et plus tard, beaucoup de païens sont allés à l'autre extrême, dans l'ascétisme. Ils étaient si saints qu'ils avaient ces hommes saints vivant au sommet d'un arbre ou dans une grotte, et j'essaie de trouver le nom ici. Quoi qu'il en soit, ils se coupaient complètement du monde, et ils n'avaient aucun contact avec les femmes. Ils pensaient que s'ils s'approchaient d'une femme, c'était un péché. Ils pouvaient avoir une mauvaise pensée. Eh bien, franchement, si vous voulez avoir une mauvaise pensée, c'est facile. La plupart d'entre vous savent que si vous êtes dans une grotte ou sur un radeau au milieu de l'océan, vous pouvez avoir une mauvaise pensée. Mais ils pensaient qu'ils allaient se protéger de cette façon. Ils ont donc inventé toutes sortes de choses erronées. Ils pensaient que le corps était intrinsèquement mauvais. Ils pensaient que le sexe était intrinsèquement mauvais, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a rien de mal à cela, il n'y a rien de mal à ce qu'un jeune homme trouve qu'une jeune femme soit belle, elle l'est, et qu'il veuille l'épouser un jour et en faire son aide, sa compagne et la femme de ses enfants. Il n'y a rien de mal à cela. C'est juste qu'il entre dans les détails et qu'il pense directement aux relations sexuelles avant le mariage, c'est ce qui est mal. Mais penser aux choses fondamentales comme cela, à sa beauté, à sa désirabilité, ce n'est pas mal. C'est pourquoi il est dit... Ne vous lancez pas dans ce genre d'ascétisme et de fausseté. Verset 19. Sans s'attacher au chef, ne faites pas ce genre d'ascétisme fou, parce que cela vous éloigne du Christ, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est pourquoi, verset 20, si vous êtes mort avec le Christ aux principes élémentaires du monde, les idées païennes, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Remarquez les règles, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Certains protestants peuvent jouer sur ce point, bien sûr. Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il ne faut pas toucher les cadavres ou certaines choses qui sont impures. Mais dans ce contexte, ce que faisaient les païens, ils n'avaient même pas le droit de toucher une femme. Certains hommes vivaient sur des piliers, on les appelait les saints des piliers. Ils vivent tout seuls au sommet d'un pilier, et certains d'entre eux deviennent littéralement aveugles. Beaucoup d'entre eux, il y en avait des centaines à l'époque, peut-être des milliers, ont fait cela. Ils pensaient que cela les rendrait saints, ne s'approchant même pas d'une femme pour la toucher ou la voir de près. Je suppose qu'ils devaient jeter leur excrément dans un panier, ce qui devait être assez désagréable et tout le reste, mais c'est ce qu'ils faisaient, ils pensaient que c'était sacré. Verset 21, « Ne touche pas. Il n'y a rien de mal à toucher une femme quand on n'est pas marié. Il n'y a rien de mal à se tenir la main de temps en temps, de danser avec une jeune femme ou de la prendre dans ses bras. C'est juste mal de la convoiter et d'ajouter trop de choses à faire et ne pas faire à ce que Dieu dit. Si nous commençons à ajouter beaucoup de choses à faire ou à ne pas faire, nous aurons des problèmes. C'est ce que j'ai constaté dans l'Église pendant 64 ans. Ne le faites pas, ça finit toujours mal. » Verset 20, « Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont mis ces choses-là dans leur religion ascétique. » Verset 23, « Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Ils ont l'air bien en surface, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de fausse humilité, contraire à Dieu. Et le mépris du corps, certains d'entre eux s'affamaient et abîmaient leur corps par ces pratiques, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Souvent, les gens vont jusqu'à cet extrême et ensuite ils retournent à l'autre extrême plus tard, ce que nous avons vu bien des fois, même dans l'Église de Dieu. Galatiens 3:1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, en d'autres termes, si vous êtes sorti de la tombe liquide par le baptême, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Christ est actuellement assis à la droite de Dieu. » Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. S'il vous plaît, apprenez à faire cela, surtout les jeunes, garçons et jeunes filles. C'est difficile à faire. Vous êtes entourés les uns des autres et vous voulez vous amuser et tout cela, mais concentrez-vous sur les choses d'en haut, pas seulement sur les choses de la terre. Concentrez-vous sur les choses d'en haut et non sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vraie vie est dans le Christ qui vit en nous. Verset 4. Quand Christ, votre vie, si nous marchons avec Christ, parlons avec le Christ, nous abreuvons de ce livre, prions Dieu, méditons, alors il vit sa vie en nous. Nous avons alors davantage sa pensée dans toutes les facettes de notre vie et nous marchons avec Dieu. Nous marchons pleinement avec Dieu. Verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, et oui, il apparaîtra, cela se produira. Quand vous voyez toutes ces choses terribles, c'est horrible. Cela signifie que le royaume de Dieu est d'autant plus proche, et lorsqu'il apparaîtra, il dit, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez membres glorifiés du royaume de Dieu. Tout cela en vaut la peine. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la mauvaise utilisation de nos membres. Il nous montre ici sur terre. Verset 5. La débauche, les relations sexuelles illicites avant le mariage, l'impureté, ce qui inclut évidemment la pornographie, l'adultère et les attitudes homosexuelles, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, le fait d'en vouloir toujours plus. Elles vous disent, vous le méritez, regardez ces belles choses physiques, ne faites pas ces choses, qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, la propre colère de Dieu, vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous étiez remplis de ce mode de vie, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Paul dit, débarrassez-vous de ces comportements, à la colère. Ne soyez pas constamment en colère contre les gens. Cela vous fera du mal. Cela ne fait pas de mal à celui contre qui vous êtes en colère. Elle ne fait que vous blesser. Elle vous donne des ulcères. Cela vous donne de l'hypertension. Elle vous donne des maladies cardiaques, toutes sortes de choses. Ne laissez pas la colère s'emparer de vous. Débarrassez-vous-en. Priez Dieu pour qu'il vous fasse renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Rabaissez les autres dans votre façon de parler et d'agir, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en ayant revêtu l'homme nouveau. Vous êtes sortis de la tombe liquide avec le Christ et laissez Christ vivre en vous. Cherchez à faire vivre en vous le Christ, verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est le Christ qui nous a créés, verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Cela ne fait aucune différence en Christ, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. C'est une déclaration merveilleuse quand on y réfléchit bien. Le Christ est tout et en tous. Il est la fin et le commencement. Verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Apprendre à être gentil et aimable. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frères et sœurs, c'est une chose si importante, c'est une chose avec laquelle beaucoup d'individus du peuple de Dieu ont des problèmes. Ils ne se pardonnent pas complètement les uns les autres. Apprenez à le faire. Libérez-vous et débarrassez-vous de cela. Se pardonner les uns les autres comme le Christ vous a pardonné. Et Dieu nous dit dans Matthieu, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. » C'est une affirmation forte. Si vous n'apprenez pas à pardonner aux autres du fond du cœur, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Apprenez à le faire, libérez-vous en pardonnant. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, le véritable amour de Dieu pour aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de tout votre esprit, et pour vraiment aimer sincèrement votre prochain comme vous-même, et penser sincèrement comment puis-je servir au mieux cet autre être humain créé à l'image de Dieu. Comment puis-je aider sa vie à être plus riche et plus épanouie? C'est ce que Dieu veut que nous fassions tous. Verset 14. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, la véritable paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole du Christ, cette parole dans ce livre-ci, demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Souvent, dans les premières années de l'Église à Pasadena, nous avions des sessions de chants de cantiques, et je pense que nous le faisons ici aussi, occasionnellement, dans diverses activités. C'est une bonne chose. Dans le camp d'été, il y a une session de chants de cantiques, je crois, le matin du sabbat, comme il le faisait à l'ambassadeur. Le simple fait de chanter et de lire les paroles de Dieu est vraiment encourageant. Verset 16, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et voici le verset clé, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, que vous soyez marié, que vous ayez un emploi, cela ne fait aucune différence. Verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Remerciez Dieu pour cette belle jeune femme qui a accepté de quitter son foyer et d'être votre aide, votre compagne pour le reste de votre vie naturelle. Aimez-la, chérissez-la, protégez-la, encouragez-la, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Encouragez-la et édifiez-la, ainsi que la femme qui essaie d'aider, d'édifier et de renforcer son mari. Donnez-vous l'un à l'autre de toutes les manières possibles et à tous les frères. Aidez-les et servez-les de cette manière, verset 17. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ne faites pas en sorte que votre mari se dispute avec vous. Dites simplement « Oui, mon chéri », les trois meilleurs mots. Les maris sont enseignés à faire cela, mais les femmes sont aussi enseignées à faire cela. Que les femmes se soumettent à leur mari. Mari, aimez vos femmes. Si votre femme n'est pas parfaite et qu'elle se dispute ou fait de mauvaises choses, et ne vous agrissez pas contre elle. Certains hommes deviennent amers et veulent quitter leur femme ou les rabaisser. C'est mal. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants. Ne les poussez pas trop fort ni trop vite. Soyez patients et attentifs, de peur qu'ils se découragent. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Obéissez à vos patrons au travail. Obéissez à vos superviseurs et à ceux qui travaillent avec vous. Ayez cette attitude. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Monsieur Ames n'est pas parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait. Le tout parfait est le Christ. Mais apprenez à vous soumettre à un patron imparfait. Apprenez à vous soumettre à un chef imparfait tant qu'il n'a pas enfreint directement les commandements de Dieu. Et Dieu vous bénira pour cela. Si vous devenez le patron, vous ne serez pas parfait non plus. Pensez-y. Et si vous devenez le superviseur, serez-vous parfait? Non. Verset 22. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Dieu dit d'honorer le poste d'autorité dans la crainte du Seigneur, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste 9, verset 10, Dieu nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Ecclésiaste 9, verset 10 « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. Dieu veut que nous soyons pleinement engagés. Et si vous êtes avec Dieu, allez jusqu'au bout avec Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Faites-en une grande affaire de tout votre être. Servez votre Créateur et sachez qu'il sera là pour vous à 100% et qu'il vous bénira de cette façon. C'est ce qu'il veut. » Verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Vous servez directement le Seigneur Jésus-Christ. » Verset 25, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Oui, Dieu s'en occupe. J'ai vu cela à maintes reprises au cours des 64 années pendant lesquelles j'ai été en contact avec l'Église. Ceux qui s'en prenaient aux autres, qui me blessaient, n'ont jamais réussi à s'en sortir. Ils furent punis par Dieu lui-même. » Il est étonnant de constater que Dieu finit toujours par s'en occuper. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. C'est toujours le cas. Toujours, Dieu s'en occupe. Verset 25. Il n'y a point d'exception de personne. Maintenant que nous arrivons au dernier chapitre et que nous n'avons pas autant de problèmes techniques, je peux aller un peu plus vite. Colossiens 4, verset 1. Maître ou patron, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Nous devons les payer équitablement. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Si vous avez votre propre entreprise, payez-les et payez-les à temps. Verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez constamment en étant vigilant, en veillant à prier pour toutes les choses qui se présentent. Paul écrit, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Dieu veut que nous franchissions les différentes portes de la télévision et de l'Internet pour augmenter notre diffusion de notre revue en version papier ou en ligne. Diffusez ce message dans le monde entier avec une puissance croissante, verset 3, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Il leur rappelle, je suis enchaîné, je suis un esclave ou un prisonnier romain ici à Rome. Verset 4, et le faire connaître comme je dois en parler. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ayez de la sagesse lorsque vous traitez avec l'esprit charnel et rachetez le temps. Faites-leur savoir que vous avez un but dans la vie. N'argumentez pas avec eux. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, sagesse et bonté, assaisonnée de sel. Ayez le sens du but dans ce que vous dites, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il vient ensuite aux salutations personnelles. Verset 7. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Verset 9. Je l'envoie avec Onésime. Onésime est un esclave, et Paul en parle dans Philémon. Le frère fidèle et bien-aimé, qui est l'un des vôtres. Onésime était donc originaire de Colosse, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité. Paul était donc emprisonné. Vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, ou neveu, il faudrait peut-être dire le fils de sa sœur, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Verset 11. Jésus, appelé Justus, un certain nombre de personnes s'appelaient Jésus à l'époque, ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. C'étaient des Juifs qui aidaient Paul, et qui ont été pour moi une consolation. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, un ancien païen de Colosse, un serviteur de Jésus-Christ, remarquez ici. Il vous salue et il est toujours en train de travailler avec ferveur. Vous pouvez l'imaginer à genoux. Aidez mes frères, aidez mes sœurs, guidez-les. Réprimandez Satan, guérissez un tel, bénissez un tel, délivrez un tel. Verset 12. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé. Est-ce que Dieu est contre les médecins dans tous les cas? Non. Il appelle Luc le médecin bien-aimé. Si nous regardons ce que Jésus disait dans Matthieu 9, verset 12, Matthieu 9, verset 12, gardez votre place ici dans Colossiens, Matthieu 9, verset 12, Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Il ne dit pas que le médecin est mauvais. Il y a certaines choses qu'un médecin peut faire. Il faut juste s'assurer qu'il ne fait pas tout ce qui n'est pas bon. Mais il parle de Luc, au verset 14 de Colossiens, Luc, le médecin bien-aimé. Et il est difficile de trouver l'équilibre ici. Mais Luc vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, une ville qui était proche, et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Cet homme avait une église dans sa maison. Frères et sœurs, nous avons parfois l'impression que l'église apostolique était une grande église avec des milliers de membres partout. Eh bien, il y avait des milliers à Jérusalem, mais dispersés dans tout l'Empire romain, il y avait des dizaines et des dizaines de petites églises de maison, beaucoup plus petites que celles que nous avons ici, évidemment. Il y avait peut-être seulement 20, 30 ou 40 personnes qui se réunissaient chez quelqu'un, et un peu partout. Il y avait des églises de maison, une église dans sa maison. Verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodiciens. Diffusez et partagez ces lettres, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Paul leur a donc apparemment écrit une lettre, et Dieu n'a pas choisi de mettre cette lettre dans le Nouveau Testament. C'est intéressant. Dieu a guidé ceux qui ont mis ici les messages dont nous avons besoin. Verset 17. Et il dit à Archip, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » C'est en quelque sorte une dernière plaisanterie pour ce jeune homme. « Veille à bien remplir ton ministère, Jean, Georges ou Kippus, » dit-il à la fin. Verset 18. « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Paul écrivait donc quelques phrases finales de sa propre main. Peut-être avait-il le même problème que moi. Son écriture n'était pas très bonne, je ne sais pas. Mais il écrivait les dernières phrases de sa propre main et dictait le reste. Verset 18. « Souvenez-vous de mes liens. Pour une seconde fois, souvenez-vous de moi, mes frères. Je suis en prison. » Et moi, personnellement, je peux vous dire parfois, souvenez-vous de mon accident vasculaire cérébral, mes chaînes. Ce n'est pas d'être dans une prison romaine avec des chaînes, mais on doit m'aider à monter ou à descendre de la scène. Je suis fatigué et je dois faire plus d'efforts. Je peux donc dire, souvenez-vous aussi de mes chaînes, mais souvenez-vous des chaînes de nous tous, parce que certains d'entre nous souffrent plus que moi, et ma femme est en danger, bien sûr, pour sa santé et d'autres. Ils ont besoin de nos prières, souvenez-vous de ceux qui souffrent. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que l'amour de Dieu soit avec vous. Amen. Voici ce que Paul a écrit, et c'est une lettre merveilleuse quand on pense à toutes ces choses pour nous dire comment nous pardonner les uns les autres, nous aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres, et toutes les choses techniques qu'il a dites. J'espère que j'ai été un peu plus clair pour vous que dans vos propres études. Relisez donc vos notes, et j'espère que vous pourrez ensuite expliquer ces choses à d'autres personnes, afin qu'elles puissent comprendre en profondeur ces épîtres impressionnantes que le Dieu Tout-Puissant a préservées depuis 2000 ans dans le Nouveau Testament.